Troisième partie. Chapitre 1. Tu es réveillée ? Oui, entre, chérie. Étiennette, la porte refermée derrière elle, courut embrasser Maud encore couchée. Leurs bouches et leurs mains se caressaient avec cette tendresse à fleur de peau, démonstrative, empressée, complimenteuse, que les jolies femmes se témoignent volontiers quand l'absence des hommes supprime entre elles la concurrence. Du reste, depuis qu'elles vivaient ensemble à Chamblay, leur amitié, puisée aux sources de l'ancienne intimité de couvent, s'était échauffée dans les confidences, l'aveu des espoirs prochains, la communion des inquiétudes. Toutes deux, Maud, si résolue dans sa marche révoltée, Étiennette, si rudement enseignée par la vie, restaient l'une pour l'autre de simples jeunes filles amies. Qui les eût entendues converser ensemble eut la plupart du temps admiré l'innocence de leurs propos, leur adorable puérilité. Les caresses matinales échangées à profusion, leur bavardage quotidien s'amorçant en compliments sur leurs visages, en discussions de chiffons ou de toilettes. « Tu devrais toujours t'habiller de crépon noir, comme à présent, » disait Maud. « Rien ne sied mieux à ton teint et à tes cheveux. Oh, les amours de cheveux, c'est de l'or neuf ces nattes-là. » Elle en prenait une, la posait sur l'oreiller, au milieu de la soie plus obscure de ses propres cheveux défaits. « Tiens, regarde, les miens paraissent presque bruns. Jamais je ne devrais me montrer auprès de toi. Tu m'éteins complètement. »« Veux-tu bien te taire ?» répliqua Étiennette. « Est-ce qu'on lutte contre ça ? Tiens. Et contre ça ? Contre ça ?» Elle passa ses doigts dans la souple et douce coulée des boucles brunes qui s'allumèrent aussitôt de reflets roux. Elle entr'ouvrit le col à volant, formant écharpe, de la chemise de nylon. Elle découvrit la naissance de la gorge et y posa ses lèvres. « C'est toi, chérie, qui es trop jolie, trop reine. Près de toi, j'ai l'air de ta petite femme de chambre. Mais ça m'est égal, je t'aime. » Elles s'embrassèrent encore. « À propos, » dit Maud, « je me suis décidée pour le grand péplum tombant droit sur la robe à taille. Celle de chez la Ferrière ?» « Oui, seulement je la modifie un peu en rétrécissant l'empiècement du corsage. Tu vas comprendre. » Elle s'expliqua, interrompue par Étiennette, qui, elle aussi, avait eu son inspiration pendant la nuit pour modifier le modèle de la Ferrière. Et c'était vraiment un tableau à tenter un pinceau de l'école de Valenciennes, ces deux jolies filles mystérieuses, mirieuses, discutant, prenant des pauses, dans la vaste chambre du château d'Armide, boisée de riches coquilles, de courbes gracieuses, meublées de vraies pièces de musée. Elles n'étaient pas tombées d'accord quand la porte de la chambre s'ouvrit. Betty apportait le courrier du matin. « Vous avez ma lettre aussi, Betty ?» demanda Étiennette. « Oui, mademoiselle, j'ai vu que mademoiselle n'était pas dans sa chambre, alors j'ai tout porté ici. Il y a deux lettres pour mademoiselle Étiennette. » « Tiens, » dit la jeune fille étonnée, « qu'est-ce qui peut ?» Elle n'attendait une lettre que de Paul de Tessier. Il lui écrivait chaque jour, même lorsqu'il venait déjeuner ou dîner à Chamblay. Chaque jour aussi, elle lui répondait, heureuse de se prouver, ainsi, quotidiennement, qu'elle n'était pas tout à fait seule au monde. Aujourd'hui, l'enveloppe blanche avec l'estampille gaufrée « Sénat » était bien là, comme chaque jour. Elle ne l'ouvrit pas la première, elle tenait entre ses doigts hésitants l'autre enveloppe, longue, rouge brique, marquée d'un timbre étranger. « Qu'est-ce que tu as ?» demanda Maud quand Betty fut sortie. « De qui est cette lettre ?»« C'est de Suzon, » répondit Étiennette. « Cela vient de Hollande. » « Ah, c'est bien ennuyeux. Elle aurait pu attendre encore un peu avant de donner de ses nouvelles, Suzon. » Elle traduisait la pensée d'Étiennette. Maintenant que la mère était morte, l'obstacle au mariage avec Paul, c'était cette folle Suzanne qui avait soupé, fêté, couché avec tout Paris. Sa longue absence, le long silence, point rompu même à la mort de Mathilde, commençait à la faire oublier de Paris, qui oublie vite. Allait-elle entrer en scène ? « Je t'écris d'Amsterdam où je suis arrivée avec la troupe, mais j'ai quitté le théâtre. Je suis avec un jeune négociant très calé, très chic, que je compte bien amener à Paris. Peut-être déciderons-nous aussi son frère à nous accompagner. Il est riche aussi, il ne fait rien et tu serais tout à fait son type. J'espère que maman va bien. Si elle a besoin de quelque chose, elle n'a qu'à m'écrire « Hôtel Mille Colonnes ». Henri est très gentil et j'ai tout ce que je veux. » Deux pages sur ce ton d'incohérence et d'inconscience, un verbiage de Laurette qui navrait Étiennette et l'humiliait. « J'espère que maman va bien. Henri a un frère qui ne fait rien, tu serais son type. » Voilà comment elle comprenait la famille. « Je n'ose pas te lire cela, dit-elle à Maud, je voudrais ne l'avoir pas lu. » Pourtant, elle songea qu'elle l'avait crue morte, elle aussi, emportée par cette phtisie qui la minait. Alors, elle eut honte d'avoir accepté cette hypothèse sans chagrin et peut-être avec soulagement. N'était-ce pas tout ce qui lui restait de l'autre fois, cette folle Suzon, avec qui elle jouait, gamine, ne sachant encore ni l'une ni l'autre, rien de la vie vraie? Elle dit tout haut, « Pauvre petite, je suis bien contente tout de même d'avoir de ses nouvelles. Elle a si peu de santé, si on pouvait la rendre raisonnable. Son cœur est excellent. » Dans cette offre même qui l'avait choquée tout à l'heure, la bonne volonté de la pauvre fille s'affirmait. On est bienfaisant comme on peut, suivant sa situation et ses mœurs. Pauvre Suzon. Elle consulta Maud. « Faut-il dire à Paul que j'ai reçu des nouvelles ? Moi, je ne le dirai pas. Cela lui sera désagréable. Si Suzon revient, il apprendra toujours assez tôt. Et puis, qui sait, reviendra-t-elle ? » Étiennette embrassa son amie. « C'est vrai, tu as raison. Comme tu vois juste, toujours. Mais je t'ennuie avec mes affaires. » « As-tu des nouvelles, toi ?»« Rien, répliqua Maud, vannant du bout des doigts les lettres, les enveloppes ouvertes, nichées dans le creux du lit, entre ses genoux. Des fournisseurs, l'inévitable Aaron, qui nous invite à déjeuner pour le jour du vernissage, John Arthur, qui offre un hôtel à louer rue Lincoln, c'est tout. Plus Maxime, naturellement. »« Et... »« Non, pas un mot. Quel jour lui as-tu écrit, toi ?» Mercredi. Près d'une semaine, ce n'est pas naturel. Il boude. Maud se renversa en arrière, sur les oreillers, les mains à plat, l'air là. Que veux-tu, ma chère? Il boudera. Je ne puis pourtant pas, moins de 15 jours avant de me marier, passer mes après-midi dans un entresol de la rue de la Baume. Je ne veux pas de tyrannie. Le délai que je lui impose n'est pas tellement long. Il peut vraiment patienter. D'ailleurs, qu'il le veuille ou non, je m'en tiendrai à ce que je lui ai écrit, je ne sortirai plus seule à Paris. Est-ce que le conseil que je lui donnais n'est pas le plus sage, voyons? Qu'il parte, qu'il aille faire un tour à l'étranger, un tour d'un mois ou deux. Il est en fond, justement, il gagne tout ce qu'il veut au cercle en ce moment. Quand il reviendra, tout sera casé et tassé, je serai vicomtesse de Chantelle et je me charge de l'avenir de Julien. » Elle attendit quelque temps l'approbation d'Étiennette, puis, comme celle-ci ne parlait pas, regardant distraitement la lettre de Letessier qu'elle venait de parcourir, elle se redressa, s'appuya du coude au traversin. « Tu ne m'écoutes pas ?»« Si, dit la jeune fille. Mais tu sais, moi, je suis un peu bête pour tout cela. Tu m'étonneras toujours. Je ne te comprendrai jamais bien. » « C'est pourtant assez clair. »« Oh, pardonne-moi !» reprit Étiennette en glissant câlinement son bras à côté du bras plié de Maud. « D'avance, je te dis, c'est toi qui as raison, c'est moi qui suis une petite niaise. Moi, tout ce que je désire au monde, c'est d'être auprès de quelqu'un qui m'aime bien, que j'aime bien. Le reste m'est égal. Tu ne peux pas te le figurer. Je suis une bourgeoise, je vivrais avec 3 000 francs par an en province. » Alors tu conçois, à ta place, aimant Julien comme tu l'aimes. Ne dis pas non, tu l'aimes, en avoir fait des imprudences, ce qui est extraordinaire de ta part. Je l'aurais épousé, tout simplement. Dirigé par toi, Julien, qui est paresseux mais qui n'est pas sot, aurait fait son chemin. Tu aurais été moins riche que ne le sera la vicomtesse de Chantelle, mais tu n'aurais pas été mise dans cette alternative, ne plus voir un homme que tu aimes ou passer ta vie dans une atmosphère de drame, car ils ne sont commodes ni l'un ni l'autre, tes deux amoureux. Vivre dans le drame, moi, c'est au-dessus de ma nature. J'aime mieux la tranquillité la plus médiocre. » Tout cela était dit d'un ton paisible, insinuant, presque caressant, avec ce mélange d'assurance et de modestie, charme singulier de la fille de Mathilde Duroy. Maud, qui l'avait écoutée sérieusement, répondit, la voix un peu altérée, « Ce que tu dis là est vrai pour toi et pour bien d'autres. Ce n'est pas vrai pour moi. Oh, je ne me mets pas au-dessus de toi, comprends-moi, ni de personne. Mais je le sens, je ne me résignerai jamais à être la femme d'un homme comme Julien, parce que je ne veux pas être déclassée, comprends-tu? Plutôt être une simple cocotte, comme... Elle allait dire comme ta sœur. Elle se reprit à temps. Tant d'autres qui ont commencé par le couvent et fini par la galanterie. J'aimerais mieux devenir la maîtresse avérée d'Aaron qui me répugne. Au moins, comme cela, la coupure est franche. On n'est plus du monde, on n'y songe plus, et puis on a le grand luxe et la rosserie pour se rattraper. Et l'amour, dit en souriant Étiennette. L'amour, ce que tu entends par l'amour, c'est-à-dire le coin du feu, le monsieur assagi, comme Paul, qui vous prend sur ses genoux et vous dorlote en vous disant des tendresses et à qui, en échange, on prépare des grogs et des pantoufles. J'en ai horreur de cet amour-là, entends-tu? Horreur, horreur! Je ne suis pas tendre. On ne se refait pas, les tendresses me portent sur les nerfs. Mais Julien, cependant, questionna Étiennette un peu surprise. Maud s'appuya des deux coudes au bord de lit et la voix sourde et ardente. « Julien, ah, ce n'est pas de la tendresse en pantoufle qu'il y a entre nous deux, va. Tu disais que je l'aime. Eh bien non, je suis sûre de ne pas l'aimer. Je le vois tel qu'il est. Pas supérieur comme intelligence, vaniteux, égoïste, paresseux. Oh, je le connais bien. Mais il y a en lui quelque chose de tellement supérieur aux autres hommes, malgré tout cela. » Il est tellement un être plus beau, plus fort, plus délicat, plus élégant, plus... Comment dire? Je ne sais pas, il n'y a pas de mots pour exprimer cela. Il n'est qu'une chose, mais il l'est extrêmement. Il est l'amant. Me comprends-tu? Elle s'abattit de nouveau, le dos sur son lit, fermant les yeux et d'une voix plus lente. Tous les hommes, même ce pauvre Christianus qui faisait pâmer jeunes et vieilles. Il me répugne un peu. Maxime n'est pas laid, n'est-ce pas? J'ai envie de le mordre après qu'il a baisé mon front que je lui tends. Il n'y a que Julien. J'aime ses mains, sa bouche, ses yeux. Je le désire, il me semble, comme les hommes nous désirent, même en nous haïssant. Tu ne comprends pas cela non plus, toi. Peut-être tu ne le comprendras jamais, comme je ne comprends pas les rêves en pantoufles. « Moi, je ne suis amoureuse que d'un homme unique, mais je le suis terriblement. D'où me vient ce tempérament-là? Ma mère est calme comme une marmotte. Jacqueline n'est dévergondée qu'en parole. De papa, peut-être, qui était très amateur, ou de quelque nègre à moitié sauvage, un aïeul imprévu du côté de maman. En tout cas, j'en pâtis, moi. » Elle se tut un instant, puis elle ajouta « Te rappelles-tu, un soir, à la maison, ce graphologue belge qui a lu dans nos écritures? Il a mis sur mon signalement « très sensuel ». Et ce petit imbécile d'espien, lisant par-dessus mon épaule, ricanait. « Ah ah, très sensuel !» Je l'ai fait taire d'un coup d'œil et je n'ai pas pu m'empêcher de lui dire « Il n'y a pas de quoi rire, si vous croyez que c'est drôle !» Ils ne savent pas, vois-tu, ni toutes ces poupées, ni tous ces claquets, ce que c'est que d'avoir des sens. Il y a des moments où je suis tentée de croire qu'il n'y a que deux amants à Paris, Julien et moi. Elle se tut assez longtemps. Étiennette, un peu effrayée par cette vue brusquement ouverte sur l'âme de son amie, songeait « Comme elle doit être émue pour parler ainsi, elle qui se surveille si bien !» Mais Maud, se retournant vers elle, la voix et l'attitude remises. « Que te dit le cher sénateur? Il dit qu'il vient déjeuner ce matin comme c'était convenu. Hector aussi, probablement. »« Certainement, » fit Maud en souriant, « puisque Madame de Chantelle amène Jeanne. » Étiennette, le rire aux lèvres, se leva et embrassa Maud. « Allons, » dit-elle, « je vais me faire belle pour recevoir mon amoureux. » « Il n'est pas à plaindre, ton amoureux. Seulement, veux-tu un conseil? Ne laisse pas traîner le fleur trop longtemps. » La jeune fille, de la porte, envoya un signe d'assentiment. « Et crois-moi, » conclut Maud, « pas un mot de Suzon. » Elle sonna Betty. Dès que l'anglaise fut là, lui présentant les mules, Maud sauta en bas du lit, laissant aussitôt glisser de ses épaules sur le tapis, où vite l'anglaise le ramassa, le souple tissu de linon. Tandis qu'on préparait le tub dans le cabinet de toilette, la jeune fille erra, tranquillement nue, de la commode où elle choisit elle-même les bas, la chemise, le pantalon qu'elle allait mettre, à la glace de la cheminée, devant laquelle elle s'amusa à faire jouer dans ses boucles les reflets roussis du jour. Et cette blanche forme, de la nuque brune aux seins menus, aux genoux étroits, aux pieds délicats, soignée comme des mains, toute cette blanche forme de Diane était si parfaite qu'elle restait chasse de l'impudeur sacrée des marbres de déesse. Ensuite, allongée sur le canapé du cabinet de toilette, Betty, agenouillée, la tamponna légèrement avec des serviettes floconneuses, lima minutieusement les ongles des orteils, massa les jointures polies. Maud s'attardait agréablement à ses frôlements agiles, discrets, de doigts féminins. « Encore, Betty, un peu plus fort !» Durant cette demi-heure de massage, elle rêvait à l'aise, elle préparait sa journée dans le silence. « Maxime, Julien, les deux pôles de ma vie à présent !» Jusqu'à ce jour, elle avait tenu Julien par le servage des sens altérés, puis rassasié, ne lui laissant jamais entre deux rendez-vous le temps de la réflexion de la révolte. Il fallait aujourd'hui changer de tactique. Quand elle se rendait chez Suberceau, elle avait le pressentiment d'être guettée par des yeux hostiles. C'est fou vraiment d'y être retournée, même une seule fois, depuis que Maxime est à Paris. Si quelqu'un lui disait... Elle le trouvait embruni parfois, inégal, distrait, chaviré dans des silences brusques, à certains mots qui, sans doute, évoquaient le souvenir de paroles prononcées ailleurs. « Il a dû recevoir des lettres anonymes. J'ai tant d'ennemis, je n'ai que des ennemis. Cet abominable Uccelli, Aaron, enragé contre mon mariage, qui lui ôte ses dernières chances, me poursuivent d'espionnage. Ils sont capables d'acheter mes domestiques, et Betty, c'est tout. » Pour la première fois, elle frissonnait devant l'avenir, devant la chance de la catastrophe. « Si cela casse encore cette fois, c'est fini, la vie est manquée. » Une suggestion puissante le lui certifiait. Ce mariage manqué, que devenait sa vie? La chute dans le hasard, dans l'inconnu, l'horrible avenir de médiocrité. « Oh non, cela, jamais, jamais !» La face humble et obstinée d'Aaron glissait dans son rêve. Elle savait ce qu'il voulait, lui. Il avait osé le lui dire un jour, grâce au tête-à-tête forcé d'un grand dîner. Il lui avait coulé dans l'oreille, alors qu'elle ne pouvait ni le faire taire ni refuser de l'entendre, ses projets louches de conquête. Et tandis qu'elle le cinglait d'insultes à voix basse, elle l'entendait encore, répétant « Votre ami, toujours. On ne sait pas ce que l'avenir réserve. Vous me trouverez toujours, toujours. » Et, vous savez, j'ai toujours réussi à ce que je voulais. » Oh, le misérable! Cette déclaration cynique lui avait laissé l'impression d'un contact de bête impure, de bête gluante frôlée par mégarde. Pourtant, l'avenir, si le mariage manquait, c'était cela ou la misère. « Nous sommes à la veille de la débâcle, » pensa-t-elle, évoquant d'autres soucis, des soucis d'argent qui la travaillaient trop souvent, bien qu'elle s'efforçât de les écarter. « On nous laisse encore tranquille parce que mon mariage est annoncé officiellement. Si tout manquait, quel assaut !» Mais bientôt, demi-vêtue devant la haute psychée au cadre gris fileté de bleu, elle se rassurait. Julien, Maxime, l'un et l'autre étaient trop esclaves pour s'affranchir. Elle tenait trop bien leurs pensées, ils ôteraient plutôt d'eux-mêmes le pigment de leurs prunelles, la couleur de leurs cheveux. D'autres se sont libérés pourtant et m'ont oublié. Elle se rappelait les mariages manqués comme une injure inguérissable. « C'est que je ne m'étais pas donné la peine de me faire aimer, » pensa-t-elle. Betty fixait les dernières agrafes de la robe en cachemire gris à longues plis indéplissables et Maud, debout à la fenêtre entr'ouverte, regardait les massifs fleurissants qui s'arrondissaient devant le château. Malgré la jeunesse de la saison, l'haleine précoce de l'été flottait, éparse dans l'air, exhalait des profondeurs déjà touffues du parc d'Armide, où, parmi la verdure des taillis, se détachaient çà et là, en reflets de marbre, les pâles statues. Quelle âme jeune résiste à l'appel puissant, à l'invocation au bonheur, jaillie d'une tiède matinée de printemps? Maud souriait, tout à fait calme, confiante en soi, confiante en l'avenir. « Tiens, murmura-t-elle, Hector est déjà là. » Il descendait les marches du perron. Jacqueline le suivait, l'ombrelle ouverte. Leurs ombres sur les marches blanches paraissaient à peine lavées de bleu dans le poudroiement ténu du soleil. Presque aussitôt, Paul Letessier parut à son tour avec Étiennette, dont la nuque était d'or sous l'or du jour. Les deux couples se suivirent quelques pas. Puis, tandis que Jacqueline et Hector s'enfonçaient dans le parc, le sénateur s'assit avec Étiennette sur l'un des bancs de pierre circulaires qui garnissaient de place en place les alentours du bassin. « Allez voir, dit Maud à Betty, si les chantelles sont arrivées. Je n'ai plus besoin de vous. » Étiennette et Paul Letessier, sur le banc où, sans doute, la danseuse héros et son financier s'étaient, autant jadis, becquetés tendrement, causaient en bons amis affectueux, Paul gardant dans ses mains d'athlète la main de la jeune fille. Il lui contait les démarches faites pour elle la veille à Paris. « Voilà, cher ami, tout est réglé pour l'assurance. Il est convenu que c'est moi qui toucherai à votre majorité les 20 000 francs que vous prétendez me devoir pour rembourser mes avances. Vous me permettrez bien, je l'espère, de les mettre dans la corbeille, puisqu'ils sont à vous. Les grosses difficultés pour la succession sont aplanies. Votre sœur, n'ayant pas donné signe de vie au décès de votre mère, tout fait supposer qu'elle ne réclamera pas sa part de l'héritage. » Étiennette eut envie de l'interrompre, d'avouer la lettre de Suzanne. Elle n'osa pas et, dès lors, liée par son silence, l'aveu devint impossible. « L'appartement reste à notre nom jusqu'à l'expiration du bail dans 18 mois. D'ici là, nous serons mariés, je suppose, et vous déciderez ce qu'il vous plaira. De mon côté, toutes mes affaires sont en ordre. J'ai vu Cross qui me signera un certificat de maladie me permettant d'avoir un congé de 3 mois. Avec les mois de vacances, cela nous fera la moitié d'une année. Nous nous marierons à Londres. Nous irons passer ensuite quelque temps à Vézeris, chez le jeune couple Chantel, et nous rentrerons à Paris, ajouta-t-il en souriant, tout parfumé d'aristocratie par le frottement de la haute noblesse poitevine. Il déguisait, sous un ton de plaisanterie, un plan longuement, sagement mûri. Il voulait épouser Étiennette sous le patronage des Chantel et des Rouvres, dont les noms éclatants faisaient rentrer dans l'ombre les origines et les alliances de Mademoiselle Duroy. Il y a tant de Duroy par le monde, et puis qu'importe le nom d'une femme le lendemain de son mariage. « Comme vous êtes bon !» murmura la jeune fille, le caressant de ses yeux câlins. Bouleversée par ces vagues de puissante tendresse qui battent les cœurs de 40 ans, tendresse inquiète et naïve à la fois, prête à douter de tout et à tout espérer, il lui répondit d'une voix qui tremblait « Je vous aime tant. M'aimerez-vous un peu, au moins ?»«
Vous savez bien que je vous aime. »
« Oui, elle-même, » pensait-il en buvant la douceur de ses yeux bleu clair, en respirant cette odeur de jeune printemps qu'elle évaporait. « Elle-même, mais comment m'aime-t-elle ? Surtout, comment m'aimera-t-elle ? Une sorte de tendresse filiale lui suffit aujourd'hui. Mais quand je serai son mari ? Oh, m'aimera-t-elle avec tout elle-même, comme un amant ?» Le vœu tenace, rongeur des cœurs trop jeunes pour leurs années, le tenaillait plus cruellement à mesure qu'il approchait de la possession. Il lui fait bon marché de la tendresse, de la dilection d'âme à âme. Il ne désirait que la palpitation de ce jeune corps dans les caresses, l'amour de la chair pour la chair. N'est-ce pas le vœu de tous les amants ? Hector revenait, avec Jacqueline, des bords de l'étang. Paul, l'apercevant, envia sa silhouette plus mince et plus alerte, ses cheveux drus et bruns, sa figure juvénile, ses 30 ans. « L'animal ! » se dit-il avec un peu d'humeur. « Il a la jeunesse et il emploie cette chose bête qu'ils appellent le flirt au lieu d'aimer. » Et, si triste de ses 45 ans qu'il en oublia un instant la profonde affection qui l'unissait à son frère, il dit à Étiennette silencieuse, anxieuse un peu, « Rentrons, voulez-vous ? » Hector et Jacqueline, retour du bois, devisaient d'amour sur un tout autre ton. Jacqueline, quand ils s'assirent à leur tour sur l'un des bancs de marbre, concluait l'entretien commencé. « Si toutes les jeunes filles pensaient comme moi, mon cher, nous ferions notre petit 89 et nous gagnerions nos libertés de vive lutte. » Quelle liberté ? Liberté de sortir et de voyager seul, d'abord. Liberté de rentrer chez nous à l'heure qu'il nous plaît, de ne rentrer que le matin, par exemple. Vous n'imaginez pas ce que cela m'amuserait de noctambuler. Liberté de dépenser de l'argent en notre fantaisie, liberté d'avoir des amants. Oui, des amants.
Vous avez bien des maîtresses. Elles seront difficiles à marier, vos jeunes filles d'après 89.
Pourquoi ? Vous vous mariez bien, vous, quand vous vous êtes affichée pendant 10 ans avec des cocottes ?
Ce serait un usage à établir, voilà tout. On dirait, mademoiselle une telle a eu une jeunesse orageuse, mais ce sont les jeunes filles comme celle-là qui font les meilleures femmes. Mieux vaut courir avant le mariage qu'après, etc. Tout ce qu'on dit pour vous.
Nous verrons peut-être ces mœurs-là, fit Hector. Moi, je ne m'en plaindrai pas.
Oh, vous serez trop vieux pour en profiter, mon cher. Vous serez comme les gens du tiers qui sont morts vers 1790, juste avant d'avoir eu le plaisir de voir guillotiner des nobles.
Moi aussi, d'ailleurs. C'est pour cela que je suis une jeune fille parfaitement sage qui ne laissera pas toucher le moindre petit à-compte avant le mariage.
Hector, souriant, réfléchissait. Il regardait Jacqueline, la trouvait infiniment désirable et pensait à l'estrange avec le pire sentiment de jalousie mâle, celui qui jalouse la possession sans désir personnel pour le plaisir que l'autre en aura. Il demanda « Alors c'est décidé, ce mariage avec l'homme blond ?
Êtes-vous discret ?
Trop pour le divertissement de mes contemporains. »
Eh bien, oui, c'est fait en principe. Je vous le raconte parce que je sais que cela amusera votre dilettantisme. Cela s'est passé avant-hier soir. J'avais fait inviter tout seul l'homme blond, comme vous dites. Il faut bien que j'aie mon amoureux de temps en temps, moi aussi, avais-je dit à maman. Tout le monde a le sien dans la maison. Je m'étais un peu décolleté, et puis j'ai un secret pour que, quand on est près de moi, on ne puisse penser qu'à moi. On ne respire que moi. Devinez. Au dîner, naturellement, l'estrange s'est allumé, à ce point qu'il ne pouvait plus manger et qu'il n'entendait plus ce qu'on disait. Savez-vous, une des raisons qui m'ont donné du penchant pour lui, qui n'est pas beau, c'est que je l'excite extrêmement. Je le chavire, ce garçon. Toutes les femmes, me direz-vous.
Non, moi davantage. Après dîner, on a été dans la serre. « Prodigieux endroit de flirt, mon cher, votre serre sous les palmiers du fond. Ma sœur jouait du Berlioz, maman faisait des patiences. Nous étions vraiment là-dedans, Luc et moi, comme en cabinet particulier. Nous avons causé. J'ai un peu activé Luc en lui déclarant que j'en avais tout à fait assez de ma chasteté professionnelle, que je ne demandais qu'à changer d'état. Je lui racontais que j'avais des insomnies, des réveils très énervés.
« Est-ce vrai ?» demanda Hector.
Mais oui, mon cher, c'est vrai. Voilà le plus drôle de l'affaire. Tiens, il paraît que ça vous agite un peu, vous aussi, sage ami, ce que je vous raconte là. L'estrange ne se tenait plus. Il me prenait les mains, balbutiant « Jacqueline, Jacqueline !» comme un amoureux de 15 ans. Je l'ai achevé en lui avouant que, dans ses insomnies, dans ses énervements, c'était à lui, l'estrange, que je pensais.
Et c'était encore vrai ?
Encore. Ceci pour vous calmer, vous. Alors, mon amoureux, à bout de résistance, a pris brusquement son parti. Jacqueline, je vous veux. Vous savez que j'ai horreur du mariage. Pourtant, je suis prête à vous épouser. Seulement, je vous préviens, j'ai peur d'être un assez mauvais mari. J'ai besoin de la société des femmes. Même mariée avec une femme qui me passionne comme vous, peut-être ce besoin persistera-t-il. J'aborde la chaîne, l'entrave à la liberté. « Serez-vous jalouse ?» Je lui ai ri au nez. « Jalouse, moi ?»« Écoutez, Luc, confiance pour confiance. Je ne suis pas folle du mariage, moi non plus. Ce n'est pas moi qui l'ai inventé. Mais puisqu'on se déclasse quand on ne se marie pas, je me marie. Vous concevez déjà le respect que je professe pour l'institution. Vous me plaisez, je vous plais, épousons-nous, je crois que nous ferons très bon ménage ensemble. » Outre les petits moments particulièrement agréables qui n'ont qu'un temps, je le sais. Nous serons associés pour ces petits moments-là et aussi pour les intérêts sérieux de la vie. Vous vous y entendez avec vos airs de libertin et moi aussi, tout est cervelé que je parais. Or cela, de part et d'autre, liberté complète. Je ne suis pas assez niaise pour m'imaginer qu'un viveur comme vous, qui ne peut pas voir une robe sans pâmer, va devenir subitement chasse ou même fidèle après le linge de noces. Vous continuerez à courir sans cesser pour cela de penser à moi, car vous êtes de la variété qui cumule, vous. Moi, de mon côté, je ne demande pas mieux que d'être une perle de fidélité, une barberine. Mais, que voulez-vous, ma petite expérience m'a démontré que les barberines ne se prodiguent plus dans la vie réelle. À quoi serviraient des promesses de résistance à une tentation que j'ignore ? Ce que je vous promets formellement, c'est de vous garder toujours ce qui vous est dû et de ne jamais vous rendre ridicule. À cela près, je veux être libre. À mon tour de vous adresser votre question de tout à l'heure, serez-vous jaloux ? Et qu'a-t-il répondu ? Il a réfléchi un instant, pas trop longtemps, puis il m'a dit « Vous avez raison, le mariage tel que vous le comprenez est le seul qui ne nous mènera pas au divorce. Vous êtes une femme exquise et je vous remercie de m'avoir prouvé qu'il fallait vous épouser. » Là-dessus, afin de sceller nos fiançailles, je lui ai tendu mes lèvres et, pour la première fois qu'un homme les touchait, « Pourquoi ricanez-vous ? Je vous jure que c'était la première fois. J'espère n'avoir pas semblé trop gauche. Voilà. Moi, je me sauve et je vous laisse. Voici venir les chantelles. Je ne veux pas que la jolie Jeanne m'arrache les yeux, car elle est et elle sera jalouse, celle-là. Je vous le garantis. » Sans attendre de réponse, elle se leva et, lestement, gagna la maison. Hector la regardait s'éloigner d'une grâce perverse et provocante que sa démarche accentuait. En même temps, par le chemin qui débouchait du bois de chêne à peine feuillé, une charrette à quatre places de vis-à-vis montait, amenant les chantelles. En avant, on voyait la silhouette immobile de Jeanne. Hector devinait ses yeux noirs, limpides comme l'onyx, fixés sur lui qu'elle aimait, il le savait bien à présent, un peu triste de la facilité de cette conquête, pressentant bien qu'elle le mènerait au mariage, et triste à la pensée de cette mort de sa liberté. Il marcha au devant de la voiture. Il songeait « Ces deux enfants, Jacqueline et Jeanne, sont, après tout, les deux solutions raisonnables du mariage contemporain. Si l'on veut lui garder les caractères chrétiens qui faisaient sa noblesse, l'indissolubilité, la fidélité, la fécondité, il faut chercher la femme exceptionnelle, l'oiseau rare ou la petite oie blanche comme Jeanne. » Si l'on veut le comprendre à la moderne, une façade correcte avec la licence derrière, mieux vaut, comme les Lestrange, se prévenir d'avance et s'entendre l'un avec l'autre. Les mœurs n'y perdent rien, la franchise y gagne. Mais, en vue de la voiture, le sourire de Jeanne, si innocent, si joyeux, le ravit. « Chère petite, se dit-il, je crois que je l'aime bien tout de même. » La charrette vira devant le perron du château d'Armide, déchirant le sable. Hector tendit à Jeanne l'appui de sa main, qu'elle toucha à peine, tout de suite rougissante, et sauta à terre. Madame de Chantelle, au contraire, courbattue aux jointures, se laissa presque porter de la voiture à l'escalier. Trois mois de Paris, les conversations écervelées de Madame de Rouvre, les stations chez les couturières, chez les modistes, chez les joailliers, les promenades au bois ne l'avaient pas changée. C'était le même visage aristocratique et vide, la même tournure gauche et souffreteuse sous l'éternel deuil provincial. Plutôt, elle avait déteint sur Madame de Rouvre, vouée maintenant au noir, par sympathie pour sa noble amie, noire fanfreluchée sans doute, et gayée de dentelles et de rubans. Maxime, sur le conseil d'Hector, gardait sa façon un peu sérieuse et militaire de se vêtir, corrigée par la coupe d'un bon tailleur parisien. Mais Paris avait vraiment transformé Jeanne. Elle aussi avait couru la rue de la Paix, de compagnie avec Maud, et ses yeux, avivés par le désir de plaire à quelqu'un, eurent vite fait de juger ce qui la différenciait d'une parisienne. Aujourd'hui, sa toilette noire et blanche en taffetas à mille raies, la jupe cloche à volant déchiqueté, le corsage drapé, le grand chapeau Gainsbourg tout noir, la transformait, faisait valoir sa taille exceptionnelle à Paris, son allure de vendéenne souple et solide, de petite aristocrate guerrière. « Charmant, ceci !» dit Hector en silhouettant du pouce la ligne cambrée de la nuque au dernier volant. « Oh, vous vous moquez de moi, encore !» fit Jeanne d'un ton chagrin. « Ce n'est pas bien !»« Je vous assure, répliqua le jeune homme, que votre toilette est du meilleur Paris. »« Vrai ? Oh, je suis contente ! J'avais si peur qu'elle ne vous déplût !» ajouta-t-elle ingénument. « Tu vois, Maxime, monsieur le tessier trouve ma robe très bien !» Maxime sourit, la pensée distraite. Ils entraient dans le jardin d'hiver où la table était dressée. Jacqueline, Étiennette et Madame de Rouvre les y attendaient avec Paul le Tessier. Maud n'y était pas encore, et c'est elle que cherchaient les yeux de l'ancien officier. Il profita du moment où s'échangeaient les politesses de bienvenue pour tirer Hector à part. « Maud est absente ?»« Non, je l'ai aperçue tout à l'heure à la fenêtre de sa chambre. J'aurai à lui parler sérieusement avant le déjeuner. »« Encore jaloux, vous êtes incorrigible, » gronda doucement Hector. Que de fois, depuis un mois, il avait reçu les confidences de Maxime, assaillies par les délations obscures que Maud pressentait. « Au contraire, » répliqua Maxime, « j'ai gravement offensé Mademoiselle de Rouvre et je veux m'excuser auprès d'elle. Vous êtes décidément un fiancé rempli d'imprévus. Eh bien, mais sortons, attendons-la dans le vestibule. Maud sera forcée de passer devant nous lorsqu'elle descendra. » Ils la rencontrèrent sur le seuil même, attardée à fixer au ruban de sa ceinture un pétunia double, bizarre de forme et de couleur comme une orchidée. Hector, point trop rassuré sur l'issue de l'entretien, s'efforça de plaisanter. « Voici, monsieur, chère Miss Maud, qui souhaite vous prendre une conversation, comme disent les gazettes. Le petit salon est vide et peut servir à l'interview, n'est-ce pas ?» Il leur ouvrit avec une affectation de politesse et de sérieux, s'effaça pour les laisser passer et s'esquiva. Maud, inquiète, voulut aussi paraître gaie. « C'est vrai, Maxime, vous avez quelque chose à me dire ?» Elle ramassait sa volonté pour ne rien trahir de son angoisse. Tout de suite, elle avait pensé « Julien !» Mais Maxime, gravement, lui prit les mains et, posant son front dessus, « Je vous demande grâce, » fit-il à voix basse, comme consumé par l'émotion. « Je me suis conduit en mauvais ami, je ne suis plus digne de vous. » Maud ne comprenait pas. « Qu'avez-vous donc fait ? Vous avez encore douté de moi ? Ah, si vous saviez ce que j'ai souffert à douter ! Mais pensez que chaque jour, depuis que vous êtes à Chamblay, je reçois des lettres tellement précises sur vous, sur vos habitudes, un tel mélange de faits que je sais, que je crois vrai, comme vos toilettes de la journée, comme telle ou telle course que vous avez faite, que vous me racontez le lendemain et le soir, un tel mélange de cela et de calomnies. « Que vous avez cru les calomnies, n'est-ce pas ? » répliqua Maud en retirant ses mains. « Maud, supplia Maxime, je pourrais ne rien vous avouer. Ne me condamnez pas parce que je me confesse à vous. Voilà ce que j'ai fait, écoutez. Quatre fois déjà, j'avais reçu une lettre écrite à la machine. On me disait, « Ce soir, vers 5h30, Mademoiselle de R ira rue de la Baume, deuxième porte à droite dans la rue, en venant de l'avenue, chez... » Non, jamais je n'oserais vous dire l'infamie qui était écrite. Chez son amant, acheva Maud, pourquoi ne pas la prononcer, cette infamie, puisque vous l'avez cru ? Je ne l'ai pas cru. Quatre fois, j'ai déchiré cette lettre et je ne vous en ai même pas parlé. Hier, j'ai été fou, je... Vous m'avez fait suivre ? Non, j'ai été rue de la Baume. Un peu avant 6h, un fiacre s'est arrêté devant la porte. Et il en est descendu une femme de votre taille, du moins il m'a semblé. Je me suis élancé, mais la petite porte était déjà refermée. Ah, Maud, si j'ai péché contre vous, l'heure, plus d'une heure, que j'ai passée sur ce trottoir, le long de ce mur qui borde un grand jardin, m'a bien fait expier. Maud écoutait, rassurée maintenant, mais surprise et mordue par une jalousie secrète. Ah, Julien se console, il reçoit des femmes à présent. « Continuez, dit-elle. À quelle heure suis-je sortie ?»« Passé 7h. Quand j'ai vu la porte de fer se rouvrir, j'ai perdu la tête, j'ai bondi au-devant de cette femme, je l'ai arrêtée par le bras, je l'ai forcée à montrer son visage sous la lanterne de la voiture. »« Et c'était ?» demanda Maud, dont la voix altérée eût donné l'éveil à un observateur plus avisé. Maxime hésita. « Je n'ai pas le droit de la nommer. »« Je vous l'ordonne. » J'ai le droit, moi, de démasquer les misérables qui me calomnient. C'est une prétendue jeune fille que j'ai vue à votre bal qui se faisait remarquer en courtisant ouvertement Julien de Subersau. Juliette Avrezac, dit Maud. Oui. Elle ne parla plus. Maxime, qui la regardait anxieusement, prit pour lui la colère de son front, de ses yeux, de sa bouche crispée. Oh, pardonnez-moi ! Fit-il à genoux, le front dans sa jupe. Elle revint à elle. « Levez-vous, » fit-elle presque durement. « Je n'aime pas qu'un homme s'agenouille. Soit, j'oublie. Si cela a pu vous guérir, tant mieux, car l'avenir m'inquiète avec un cœur tel que le vôtre. » Il sollicita son front, ce coin de chair embaumé par les cheveux, le seul qu'elle lui eût jamais donné le droit d'effleurer depuis leur fiançailles. Elle lui tendit son cou, qu'elle laissa un instant sous des lèvres qui la brûlaient, avec un obscur désir de vengeance, l'envie de trahir à son tour. Jamais Maxime n'avait tant reçu d'elle. Jamais baiser de Maxime ne lui crispa les nerfs si douloureusement.